Bonjour et bienvenue dans le cinquième numéro de l'analyse des experts, une émission proposée par le site internet horseball.org.
Plus que quelques jours avant la cinquième étape du championnat de France Pro Elite qui se dispute ce week-end au centre de promotion de l'élevage de Saint-Lô.
Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre nouvelle émission dans laquelle nous allons nous plonger dans le monde du horseball.
Entre analyse, actualité et interview, nous allons essayer de vous livrer un maximum d'informations sur la discipline.
Nous sommes le mercredi 4 février 2015 et sans plus attendre, retrouvons le sommaire de l'émission. Retour sur la quatrième étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait au Boulry Jump du Mans.
La qualité de l'organisation avec la note des équipes.
Notre rubrique expert comptable.
Le classement, les bonnes et les mauvaises opérations.
L'analyse des performances des équipes.
Et bien entendu, les impressions des différents acteurs du circuit.
Nous ferons ensuite un petit récapitulatif du championnat de France Pro Elite féminin, dont la dernière étape se tenait également au Mans.
Puis nous prendrons la direction du centre de promotion de l'élevage de Saint-Lô où se disputera la prochaine étape du championnat.
L'infirmerie de la Pro Elite et les compositions probables des différentes formations.
L'état de forme des équipes, les matchs et les chocs au programme.
Et enfin, les pronostics des experts.
Bienvenue dans le cinquième numéro de l'analyse des experts.
Nous débutons notre émission par un retour sur la dernière étape du championnat de France Pro Elite qui se tenait au Boulry Jump du Mans les 10 et 11 janvier dernier.
Oui, avant d'analyser les résultats sportifs, découvrons tout de suite la note moyenne que les 10 équipes Pro Elite ont attribuée à l'organisation.
7 sur 10.
9 sur 10.
8,5 sur 10.
8 sur 10.
8 sur 10.
9 sur 10.
7 sur 10.
8 sur 10.
7 sur 10.
9 sur 10.
Voilà donc une moyenne de 8,05 sur 10 donnée par les responsables des équipes Pro Elite.
Et à noter également que la note donnée à l'organisation par le délégué technique fédéral est de 8,46 sur 10.
Après 4 étapes, c'est donc l'organisation du Mans qui semble la plus appréciée par les acteurs du circuit avec une note globale de 8,25 sur 10, devant Mâcon avec 8,19, puis Saumur avec 7,95 et enfin Rosières-Aux-Salignes avec 7,26 sur 10. Rentrons à présent dans le vif du sujet avec les données sportives à date avec notre rubrique expert comptable.
Meilleure attaque, meilleure défense, meilleur joueur, meilleur buteur, podium WHBO, sanctions, des chiffres et des données en pagaille pour un état des lieux du championnat de France Pro Elite à l'issue de la quatrième étape du Mans.
8,05 sur 10.
C'est la note moyenne que les équipes ont donnée à l'organisation du Mans. 8,46 sur 10.
C'est la note du délégué technique fédéral pour l'organisation également du Mans. 80.
C'est le nombre de buts inscrits par la meilleure attaque du championnat qui n'est d'autre que Arles HCC. 47.
47, c'est le nombre de buts encaissés par l'équipe de Bordeaux qui n'est autre que la meilleure défense du championnat à l'issue de l'étape du Mans. 8.
C'est le nombre de buts inscrits par le meilleur buteur de l'étape, à savoir Loïc Séjard pour l'équipe de Loire-sur-Rhône. 26.
26, c'est le nombre de buts inscrits par Robin Cool pour l'équipe de Lillem et Rock et par Benoît Lévesque pour l'équipe d'Arles HCC qui sont en tête du classement des buteurs au général. 41.
C'est le nombre de points total d'Adria Crous-Marty pour l'équipe de Chambly qui en fait le meilleur joueur au classement WHBO. 7.
7, c'est le nombre de cartons distribués par les arbitres sur l'étape du Mans. Il y en a eu 3 en Pro Elite. On en est pour le moment à 19 cartons distribués sur le championnat de France Pro Elite depuis le début de la saison. 7.
C'est le nombre de cartons distribués par Jean-Marc Sor dans la catégorie Pro Elite qui en fait l'arbitre le plus sévère de la catégorie, suivi de près par Quentin Gauthier-Lafaille avec 5 cartons et Eric Guy, 3 cartons distribués depuis le début de la saison. 164.
164, c'est le nombre de buts inscrits lors de l'étape du Mans par les équipes du championnat de France Pro Elite. Il y en avait 154 l'année dernière. On est à plus 10 buts inscrits cette saison. Retour sur les 10 matchs qui étaient au programme de la dernière étape qui se disputait au Mans, les bonnes et les mauvaises opérations. Parmi les 10 matchs au programme, on attendait particulièrement le choc entre Arles HCC et Bordeaux, premier et deuxième au classement provisoire, et également une rencontre entre les deux promus, Loire-sur-Rhône et Ouest-Lyon. Qui a le mieux tiré son épingle du jeu, qui réalise les bonnes opérations du week-end?
Eh bien, ces bonnes opérations sont au nombre de 3. En effet, Arles HCC, Ouest-Lyon et Bellegarde peuvent être satisfaites par cette étape.
Concernant tout d'abord l'équipe d'Arles HCC, pour commencer, quels sont les enseignements de ce week-end du Mans?
Eh bien, l'équipe double championne en titre Arles HCC repart de cette étape avec les moyens de son ambition. En effet, opposé le samedi à l'équipe de Lille Emeroc, les joueurs arlésiens ont géré l'effort pour l'emporter avant le test match de cette première partie de saison face à Bordeaux. Et finalement, au terme d'un match des plus disputés jusqu'à la fin, l'équipe d'Arles HCC s'est imposée 7 buts à 6, bien portée par le meilleur buteur du classement général, Benoît Lévesque. C'était la première fois depuis le début de la saison que l'on pouvait voir cette équipe d'Arles évoluer au complet.
Je vous laisse écouter Luc Laguerre, coach de l'équipe d'Arles HCC, interrogé sur son équipe et sa bonne dynamique actuelle.
Après la victoire contre Bordeaux, c'était déjà une grande satisfaction puisque ça nous permet de rester invaincus, de faire un petit break. Et puis au-delà de ça, on n'était pas super satisfait de la manière parce que je pense qu'on a bien défendu, qu'on a fait un gros match en touche. Par contre, je pense qu'avec un poil plus de concentration et d'attention, on aurait évité de laisser tomber quelques ballons, finir à plus 2, plus 3, et rien à dire. Oui, c'est la problématique, effectivement, que l'on constate depuis le début de la saison, c'est qu'on est incapable de prendre le dessus rapidement et définitivement dans un match. On arrive à se mettre au-dessus, et puis la balle de plus 2, de plus 3, voire de plus 4, on a pris la mauvaise habitude de la rendre, et derrière de se désorganiser sur une ou deux actions, et de remettre nos adversaires dans le match, et ça a failli nous coûter cher contre Bordeaux, ça aurait pu nous coûter cher contre Angers, entre autres, quoi, à chaque fois. On n'arrive pas à vraiment prendre le dessus. C'est regrettable parce que je pense que l'équipe tourne bien, la défense est bien en place, on arrive à s'adapter un peu aux adversaires, à mettre des choses en place et à les respecter. On a une bonne touche, on a une bonne conquête, mais dans l'utilisation de la balle, je ne sais pas pourquoi, les gars sont capables de faire 2-3 actions extraordinaires et derrière de balancer 2-3 ballons, les faire tomber, des passes par terre, des tirs faciles, manqués, enfin, c'est effectivement notre problématique du moment.
Alors ensuite, deux équipes grimpent au général, les équipes de Bellegarde et de West Lyon.
En effet, ces deux équipes repartent de l'étape du Mans avec une meilleure place au classement qu'à leur arrivée. Bellegarde, en s'imposant contre Coutainville-Izé à la surprise générale, continue sur sa belle lancée, ne comptabilisant qu'une seule défaite sur ses 4 derniers matchs.
Oui, et d'ailleurs, sur ce sujet, on retrouve tout de suite Sylvain Mercier, coach de l'équipe de Bellegarde, qui revient sur l'étape du Mans et qui s'exprime sur l'importance de Clément Orzag au sein de son collectif.
Ouais, le ressenti est positif dans le sens où on a pris les points là où il fallait les prendre, donc il est plutôt positif. Je dirais de prendre les points contre les équipes où on doit prendre les points, quoi. Après, voilà, continuer à avancer, garder bien sûr Clément au minimum en tant que coach, parce que ça aide pas mal, et voilà, continuer à avancer, à prendre les points là où il faut. Il a coaché début de saison, et il y a eu des problèmes d'effectifs, et donc il a pris la place de joueur, d'accord, et donc a apporté aussi apporter quelque chose à l'édifice en tant que joueur aussi, quoi. Il a une influence essentiellement sur le terrain. Et après, bien sûr, en dehors, dans la préparation et dans l'approche des matchs et des week-ends qui se sont passés et à suivre, quoi.
À la 7e place du classement, l'équipe de Bellegarde est talonnée de près par l'équipe de West Lyon, qui gagne également une place au général et sort de la zone de relégation, se retrouvant à la 8e position.
À la HSC, West Lyon et Bellegarde auront des bonnes opérations. On doit donc s'attendre à des équipes qui n'auraient pas profité de la première étape de l'année 2015 pour améliorer leur position au général.
Oui, effectivement, deux équipes qui chutent au général, Bordeaux et Ramonsaz.
Que peut-on dire de l'équipe de Bordeaux ?
Eh bien, le champion de France 2012 laisse filer l'équipe d'Arles HSC après leur défaite, 2 points de retard qui les positionne en seconde position.
Mais la vraie mauvaise opération de l'étape est à mettre au compte de l'équipe d'Aramonsaz.
En effet, en perdant face aux équipes de Bordeaux et de Coutainville, les joueurs aramonais ne rassurent pas et continuent sur leur mauvaise lancée. Pour retrouver une victoire de l'équipe d'Aramon, il faut remonter au 22 novembre et la victoire contre West Lyon à Saumur, 5 défaites en autant de matchs, donc qui voit l'équipe de Bertrand Leclerc perdre 2 places et plonger au général. Actuellement 9e à égalité de points avec le 10e Loire-sur-Rhône, qui compte dans ses rangs le meilleur buteur de l'étape avec 8 réalisations. Loïc Séjard.
Et dans le reste du classement provisoire, y a-t-il des changements à signaler ?
Très peu, et tout d'abord c'est l'équipe de Chambly qui reste au contact du groupe de tête et pérennise sa 3e place en l'emportant contre Angers et contre Bellegarde. Les joueurs de Laurent Motard repartent de cette étape avec 6 précieux points.
On écoute tout de suite Laurent Motard qui s'exprime sur la santé de l'équipe de Chambly.
Eh ben, globalement, sur le Mans, on reste positif parce qu'on a quand même les deux équipes qui ont ramené tous les points. Même si dans les deux formations, on a un peu la même configuration avec deux hauts et des bas. Mais pour des nouvelles équipes, ça reste assez bien. Donc on est content. Ouais, y a pas vraiment de secret. C'est surtout que c'est du travail. Et puis c'est l'avantage du système de Chambly qui fait qu'on a quand même beaucoup de joueurs en formation qu'on prépare à l'avance. Et que ça nous permet de faire des transitions et d'amener des joueurs au niveau qui nous intéresse plus facilement. C'est que le système des différentes équipes et le réservoir de joueurs qui travaillent avec une même politique de jeu quand même et un état d'esprit similaire, bah, facilite les passerelles quand les joueurs sautent d'une équipe et ça permet des intégrations plus rapides et après c'est quand même du travail de toute façon.
Derrière, si Coutainville, Izéa ne perd pas sa place de 4e, elle cède du terrain à 1 point de Chambly avant l'étape. C'est maintenant 3 points qui les séparent de la 3e place, en cause notamment une défaite surprenante face à l'équipe de Bellegarde et une victoire qui ne rassure pas face à l'équipe d'Aramon.
Oui, et je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet Cernin Pitois, entraîneur de l'équipe de Coutainville-Izéa.
Bah d'abord, déjà, j'étais ravi de retrouver le horseball de haut niveau. Ensuite, concernant plus mon équipe, alors je suis vraiment satisfait de mon équipe parce que je savais que ça n'avait pas été bien du tout le week-end d'avant à Mâcon. Et là, on avait à cœur en fait de, les gars avaient simplement perdu confiance en eux, donc. On perd d'un but contre Bellegarde, on aurait tout aussi bien pu le gagner. Après, la manière n'y est pas trop, mais bon, ça c'est pour l'instant, nous ce qu'on veut c'est gagner les matchs. Et puis le lendemain, il y a une bonne réaction, on gagne d'un but, on aurait pu perdre d'un but. Alors finalement, on est content de notre résultat. Voilà. Alors est-ce que l'équipe de Coutainville repart vers l'avant après sa victoire contre Aramon? Alors déjà, faut bien avoir en tête que c'est une courte victoire, et puis il n'y a pas vraiment la manière. Alors oui, nous évidemment, nous on considère que ça y est, le plus dur est derrière nous, même si on sait que la saison est très très longue et que il y a plein de choses qui font que ça va être dur pour nous. Mais bon, après nous on est ravis d'être là, on est ravis de notre réaction et on espère que ça continue. Après, le seul petit souci c'est qu'on joue Bordeaux le prochain match, donc je pense qu'on va le mettre un peu de parenthèse sur le résultat, on pensera plus à la manière. Alors, est-ce qu'on va revoir Clément Abi avec Magic? Alors, bien sûr, évidemment, ça nous fait énormément défaut. Mais bon, ça c'est une surprise pour personne. Et nous, on le savait aussi. Alors, il lui reste... Donc, il a fait une écho de son tendon 15 jours avant Le Mans. Et le veto était vachement optimiste. Et nous a dit que c'était pas mal. Mais bon, que si on voulait la jouer vraiment tranquille, fallait qu'on fasse une écho dans un mois. Donc, on a une écho à faire... 15 jours avant Saint-Lô, et si ça va, on verra à ce moment-là, mais a priori, le cheval doit être là à Saint-Lô. Et donc, les victoires par la même, évidemment.
Enfin, les équipes de Lille et d'Angers ne parviennent pas à se démarquer, restent au coude à coude avec une défaite et une victoire chacune. Du côté de Lille, Robin Kuhl apparaît à égalité de but avec Benoît Lévesque et 26 réalisations chacun. Pour l'équipe d'Angers, on retiendra le deuxième carton jaune pour Benjamin Dehaumont, qui entraîne donc sa suspension pour le match du samedi lors de l'étape de Saint-Lô qui les opposera à Ouest-Lyon.
Avec 6 équipes en 3 points, tout peut cependant changer très vite, d'autant que les phases allées ne sont pas encore terminées et qu'il reste un match avant le début de la phase retour du championnat. Avant de prendre la direction du centre de promotion de l'élevage de Saint-Lô, nous vous proposons un petit focus sur la dernière étape du championnat de France Pro Élite Féminin qui se tenait également au Mans.
Et oui, effectivement, après une pause de près d'un mois et demi depuis la dernière étape au Salon du Cheval de Paris, les joueuses ont retrouvé les terrains. Après les 2 jours de compétition, peu de changements au niveau du classement général.
Alors du côté des bonnes opérations, quelles sont les équipes qui ont effectué une bonne étape?
Sur la première marche du podium, l'équipe de Chambly affirme sa bonne forme du moment en s'imposant contre Coutainville-Agréal et contre West Horsball. Les joueuses Picard prennent le large avec 2 points d'avance sur leur poursuivante de Chambéry. Mais c'est l'équipe de Lacano qui est incontestablement la grande gagnante du week-end. L'équipe ne semble pas trop souffrir de l'absence de son capitaine, Safia Albès, toujours absente en raison d'une blessure survenue au Salon du Cheval. En s'imposant contre les deux équipes de Montpellier-Vallon et de Nancy, les joueuses girondines gagnent 2 places et sortent de la zone de relégation pour venir s'emparer de la 6e place au détriment de l'équipe de West Horsball.
Et alors, que peut-on noté au niveau des mauvaises opérations?
Ouais, en premier lieu, c'est l'équipe de Nancy-Lorraine qui prend la place de Lanterne Rouge, tenue en échec par les équipes de Merchin et de Lacano. Les joueuses nancyennes se font distancer au général, accusant un retard de 2 points sur les joueuses de West Horsball.
À ce titre, je vous propose qu'on écoute tout de suite Yves Tozeto, l'entraîneur de l'équipe de Nancy-Lorraine.
On a des gros soucis de cavalerie cette année, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la même cavalerie. Et Morgan Lambert qui n'est pas physiquement prête, donc ça nous cause aussi pas mal de problèmes. Voilà, puis beaucoup de problèmes de cohésion aussi, donc on va essayer de régler ça avant l'étape de Saint-Lô. Et on va essayer de... on a un objectif de fin de saison, c'est le maintien. Eh bien, tous les ans, on a un peu de mal à démarrer la saison, donc cette année, ça, on n'a pas manqué à la règle, sauf que d'habitude, la troisième journée, on commence à se reprendre un peu. Mais cette année, avec tous les soucis, comme je l'ai dit, de santé, de cavalerie et beaucoup de problèmes de cohésion, on a du mal à tenir un match complet. Et on est bon sur une mi-temps, et encore quand je dis bon, on arrive, je dirais, à tenir la comparaison sur une mi-temps, et c'est pas suffisant pour jouer autre chose que le maintien, sachant que le niveau est de plus en plus haut et que les équipes qui sont montées cette année sont plus fortes que les autres années.
Heureusement pour la division et malheureusement pour nous.
Les joueuses de West Horseball repartent également de l'étape du Mans, cédant 2 points sur la première place de non-relégables.
Nancy-Lorraine et West Horseball sont donc les deux nouvelles équipes qui sont installées dans la zone de relégation. Mais dans le reste du classement général, y a-t-il d'autres changements à signaler ?
Eh bien non, de la première à la cinquième place, rien n'a changé. Du côté de Chambéry, même si on a cédé quelques points à l'équipe de Chambly, on reste à la deuxième place avec 2 points d'avance sur les joueuses de Montpellier-Vallon. L'exploit de ces dernières est d'ailleurs à signaler, avec 2 joueuses cadres blessées. Je vous rappelle Magali Denis-Lorenz et Cécile Garpillon. L'équipe reste à la troisième place et toujours au contact des 2 équipes de tête. Cependant, on reste sur quelque chose de très fragile. Toujours 4 équipes sont à des égalités de points. Montpellier, Coutainville, Merchin et Lacanau, promettant une étape à Saint-Lô passionnante. On restera notamment attentif aux rencontres opposant Merchin et Coutainville. Et bien évidemment, le choc entre le 2e et le 3e, Chambéry, opposé à Montpellier-Vallon.
C'est le moment maintenant de prendre la direction du centre de promotion de l'élevage de Saint-Lô où se retrouveront les 10 équipes du championnat de France Pro Elite pour disputer les 9e et 10e journées de la compétition.
Oui, c'est également à Saint-Lô que les formations des catégories Pro Elite féminine et Pro joueront pour le compte des 7e et 8e journées de leur championnat.
Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre récapitulatif de la dernière étape Pro qui s'est disputée à Mâcon avec l'interview de Quentin Gauthier-Lafaille pour l'équipe de GIF dans notre émission datée du 7 janvier dernier aux environs de la 19e minute.
L'organisation de la prochaine étape de Saint-Lô a été confiée par la Fédération Française d'Équitation à l'association Coup d'Envoi emmenée par Cernin Pitois et Marie Quétier.
Oui, et inutile de présenter cette organisation qui est un classique du horseball français depuis de nombreuses années. Le horseball sera de retour après le grand succès des démonstrations lors des derniers Jeux équestres mondiaux qui se sont déroulés en août dernier.
Tout ça étant dit, on va maintenant entrer dans le vif du sujet. Quelles vont être les compositions probables des équipes Pro-Elite ? Pour essayer de répondre à cette question, c'est le moment de faire un tour par l'infirmerie de la Pro-Elite.
Et pour commencer, 4 équipes semblent être en pleine possession de tous leurs effectifs joueurs et chevaux. Il s'agit des équipes de Loire-sur-Rhône, Coutainville-Izéa, Arles-HSC et Aramonsaz.
Oui, effectivement, du côté d'Aramonsaz, aucun changement à signaler. On notera l'absence de Frédéric Petrequin sur l'Antilope et d'Adrien Derieux sur Feu d'Artois. Du côté du leader Arles-HSC, l'équipe au complet depuis le retour du cheval de Nicolas Thiessard-Samoud. Juniti, du côté de l'équipe de Coutainville-Izéa, on notera le retour du cheval de Clément Abbey, Magic. Et enfin, du côté de Loire-sur-Rhône, c'est FC Jarre sur Julquin qui sera réserviste, donc absente de l'étape de Saint-Lô.
Pour les équipes ensuite de Bellegarde, Chambly et Ouest-Lyon, quelques petites absences à noter pour la prochaine étape à Saint-Lô.
En effet, du côté de Bellegarde, Clément Orzac va retrouver son poste d'entraîneur de cette équipe et sera donc absent du terrain au profit de Julien Bagui sur Tornabé qui retrouve lui le terrain. On notera toujours l'absence de Joël Gambino sur Bongré. Enfin, du côté de l'équipe de Chambly, c'est le cheval d'Adria Cruz Marty Scrupels qui est absent. On le verra évoluer avec Little Joe ou Dark. Petite incertitude à ce niveau-là. Enfin, du côté de l'équipe de West Lyon, toujours à noter l'absence du cheval de Thomas Marshall New Estin qui évoluera donc Thomas Marshall sur Roca.
Passons maintenant à l'équipe d'Angers qui sera un minimum remanié pour l'étape de Saint-Lô, notamment avec l'absence du cheval de Jean-Baptiste Aubélian, Coirou de Chadroupe. Jean-Baptiste montera donc sans pire d'armor. Benjamin de Haumont sera suspendu pour le match du samedi à Saint-Lô. On aura également l'absence d'Edouard Guabo le samedi. Ce sera donc Maël Guabo sur Mickey Louet de Brion qui viendra renforcer les rangs de l'équipe d'Angers.
Concernant l'équipe de Lille Emeroc, toujours à noter l'absence de la Caravella, le cheval de Robin Cool et un Capatric, cheval de Benoît Laversin. On notera également toujours la présence de Christophe Dupont en tant qu'entraîneur et à noter le retour de l'international Antoine Coco-Inac pour cette équipe de Lille sur l'étape de Saint-Lô.
Et enfin, on va s'intéresser à l'équipe de Bordeaux. Bordeaux qui souffre de quelques blessures, notamment celle de Malco Malta, toujours le cheval de Romain Vigneron qui est absent. Romain Vigneron sera donc associé pour l'étape de Saint-Lô à chef de file, le cheval de Romain de Ponce, puisque Romain de Ponce lui-même sera indisponible pour une bonne partie de la saison maintenant, suite à une fracture du doigt. Son retour est prévu en mai 2015 pour l'étape de Bordeaux. L'équipe de Bordeaux sera coachée par Bernard de Ponce et Thomas Soub. Il est maintenant temps de s'intéresser aux rencontres au programme des 9e et 10e journées du championnat de France Pro Elite qui se tiendront ce week-end. Pour le leader arlésien, tous les compteurs semblent au vert. La programmation de l'étape de Saint-Lô ne devrait pas leur poser trop de problèmes. On jouera Bellegarde et Aramonsaz.
Attention cependant à cette équipe de Bellegarde qui est sur une très belle lancée. On se rappelle que lors de la dernière étape au Mans, les joueurs de Bellegarde ont tenu en échec l'équipe de Coutainville-Isère.
Effectivement, mais on voit mal cependant l'équipe d'Arles-HCC s'incliner alors qu'elle reste invaincue dans cette édition du championnat 2015.
Concernant l'autre adversaire au programme pour l'équipe d'Arles-HCC, ce sera l'équipe d'Aramonsaz. Cependant, peu de chance que la deuxième victoire de cette équipe d'Aramon en 9 matchs soit contre l'équipe d'Arles-HCC.
Dans le reste des rencontres, un choc est particulièrement attendu.
Oui, c'est la rencontre entre Coutainville, Isère et Bordeaux, le deuxième qui affronte le quatrième. Même si 5 points séparent les deux équipes, ce match est intéressant pour la suite du championnat. Bordeaux qui ne doit pas céder davantage de terrain au leader provisoire Arles-HCC.
Du côté des Bordelais, une absence remarquable cependant. La personne de Romain Deponce, victime de multiples fractures du doigt lors de l'étape du Mans. Petit avantage donc en la faveur des joueurs agonais qui joueront devant leur public. Et dans le reste des rencontres, on restera attentif également au match qui opposera les équipes de Chambly et de Lille-Aimeroc.
Si l'avantage est du côté des Picards sur cette rencontre, les joueurs lillois ont montré l'année dernière une plus grande efficacité dans la deuxième partie de saison. On se rappelle qu'ils avaient gagné que 2 matchs et un seul nul dans les phases aller, alors qu'ils en avaient gagné 5 et un match nul dans les phases retour. N'oublions pas non plus que l'année dernière, les joueurs de Lille l'ont remporté face à Chambly, c'était à Mâcon.
Oui, Lille-Aimeroc, une équipe qui répond souvent présent contre les grosses écuries.
Oui, car à cette victoire, il faut ajouter une victoire historique face à Bordeaux, c'était à Fontainebleau l'année dernière. Si Chambly, du fait de sa place au classement 3e actuellement, est naturellement favori, Lille-Aimeroc est tout à fait capable de nous surprendre, d'autant qu'il faudra sûrement compter sur un public nombreux de leur côté étant donné la situation géographique de l'étape. On appelle tout de suite Benoît Laversin pour en savoir plus sur l'état de forme de son équipe à 3 jours de l'étape.
Bonjour Benoît.
Bonjour les experts.
Alors, des problèmes de cavalerie, des absences de joueurs cadres, de votre coach, comment réussir à rester compétitif dans ce contexte ?
Bah, on essaie de, avec les éléments qui arrivent à être là, assidus, que ce soit aux entraînements ou avec leurs chevaux, on essaie de rester le plus sérieux possible. Après, on essaie de, pour l'instant, de pallier aux problèmes au fur et à mesure où ils arrivent, quoi, et puis on essaie de composer avec.
On a entendu, alors c'est peut-être des bruits de couloir, que l'ambiance n'était pas forcément au beau fixe au sein de l'effectif lillois. Qu'est-ce qu'il en est ?
Mon ressenti à l'intérieur du groupe, non, là-dessus on n'a pas de soucis personnels. Alors peut-être que il y en a qui ont été se plaindre à l'extérieur, mais bon, ça m'étonnerait un petit peu. Donc je crois que c'est plus des rumeurs qui sont pas forcément fondées. Après le groupe s'entend bien et tout, donc non, il y a pas de soucis.
Dans ce contexte, comment vous préparez le choc face à Chambly pour l'étape de Saint-Lô ?
On essaie de préparer un petit peu avec les aléas, que ce soit des joueurs et des chevaux. Donc on va essayer de faire ce qu'on peut en sachant que ça fait partie des équipes qui sont prenables, comme toutes les équipes. Hein. Je crois que voilà, maintenant on part avec l'idée que cette année, je crois que tout le monde peut faire une petite erreur. Toutes les équipes sont attendues au tournant. Donc non, on essaie de rester sérieux sur nos entraînements, d'assidus, et puis voilà, continuer la saison.
Tactiquement et techniquement parlant, contre Chambly, quel va être un peu votre schéma et votre plan d'attaque ?
Voilà, on a retravaillé un petit peu beaucoup la défense, où de temps en temps il y a encore quelques lacunes. Hein. C'est quand même, je crois que c'est ce qu'il y a de plus compliqué, travailler à la défense, parce que ça demande beaucoup d'automatisme de jeu. Donc on va essayer d'être un petit peu plus assidus personnellement sur nos défenses. Pour essayer de les bloquer un maximum, et puis voilà, non, sinon on n'a pas mis en place de jeu plus qu'un autre. On va essayer vraiment de se retrouver en défense, de créer vraiment des automatismes de jeu, hein, malgré les changements de chevaux, et puis voilà, hein, maintenant on attend la confrontation.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Benoît, et puis bonne étape à Saint-Lô.
Ben, merci beaucoup.
Outre les grosses formations, le week-end de Saint-Lô pourrait bien redistribuer les cartes entre des équipes qui ne comptent que quelques points d'écart. Pour exemple, la rencontre entre Loire-sur-Rhône et Bellegarde sera certainement décisive.
En effet, l'équipe de Loire-sur-Rhône, qui est un peu à la peine depuis le début du championnat, devra profiter de l'absence de Clément Orzag du côté de Bellegarde pour espérer l'emporter, d'autant que l'opération est trop bonne pour être manquée. Une victoire contre Bellegarde relancerait directement les joueurs de Loire-sur-Rhône dans la course au maintien tant les écarts sont réduits.
Concernant les joueurs de l'équipe d'Angers, enfin, l'étape de Saint-Lô va avoir une tournure particulière avec des absences et des suspensions. Il y aura du coup des modifications de l'effectif et notamment l'absence de Benjamin Dehaumont et d'Edouard Guabo le samedi. Par contre, l'effectif sera au complet le dimanche pour le choc face à l'équipe de Bordeaux. On va appeler tout de suite Ludovic Dehaumont qui va nous en dire un peu plus sur l'état de forme de son équipe à la bord de cette prochaine étape. Bonjour Ludovic.
Bonjour les experts.
Alors, votre équipe d'Angers est capable de bousculer les leaders, mais également de faire match nul contre les équipes relégables. Comment vous expliquez cette irrégularité ?
Mais tout simplement, on a fait une nouvelle équipe avec les anciens de l'équipe de Nantes et je pense qu'on a besoin de ce temps d'adaptation pour apprendre à se connaître. Et puis tout simplement, on est conscient de notre potentiel et on a envie d'accrocher les gros pour montrer qu'on en a. Et je pense que des fois, on retombe un peu dans nos travers de suffisance contre certaines équipes. Sachant que le championnat est quand même bien accroché et qu'il n'y a plus vraiment de petites équipes.
Et alors, comment vous préparez, notamment là, sur l'étape de Saint-Lô, le choc que vous allez jouer contre Bordeaux ?
Là, l'étape de Saint-Lô, le choc, on le prépare bien puisqu'on aura l'équipe au complet, contrairement au Sidi. Donc, on sait qu'on les a accrochés avec un cheval en moins, un joueur en moins au match aller. On sait qu'il leur manque un joueur. Concrètement, pour nous, cette année, le podium risque d'être compliqué. Donc, on n'a pas grand-chose à perdre. Contrairement à eux qui peuvent encore jouer la gagne malgré leur défaite du dernier week-end. Donc la pression elle est sur les épaules, on va jouer décontracté et en fonction de comment se déroule le match, pourquoi pas très clairement aller gagner le match.
Mais justement, vous parliez d'absence d'un joueur, il y a évidemment l'absence de Romain Deponce. Est-ce que du coup cette absence-là multiplie vos rêves de victoire ?
Je sais pas, on les a déjà joués sans lui, on a déjà perdu sans lui, donc ça reste une super équipe et on va surtout pas s'imaginer que le fait qu'il soit pas là, on va gagner. On va plutôt essayer de se dire qu'il est quand même là avec eux sur le week-end et être à fond. Et si on les accroche, et qu'on les bat, ce sera peut-être parce qu'il était pas là, mais voilà, nous on va vraiment partir sur le fait que c'est Bordeaux et ça reste Bordeaux.
Et alors techniquement, tactiquement, est-ce que vous avez une façon d'aborder cette équipe ?
Oui, on a pour habitude de rester sur nos bases et nos points forts. On connaît les leurs aussi. Donc après, tactiquement, ce qu'on va changer pour ce week-end-là, le fait que Romain soit pas là, je vais garder ça pour moi. Après, ce qui est sûr, c'est qu'on va rester sur une hargne, une combativité qui nous a toujours fait force. Et voilà, et surtout s'appliquer à régler les petits détails où des fois on peut se tromper.
Très bien, et merci beaucoup Ludovic et puis bonne chance pour ce week-end à Saint-Lô.
Merci et bonne continuation.
Voilà, notre cinquième émission de l'analyse des experts touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis.
Pour retrouver toutes les données sportives et suivre la prochaine étape de Saint-Lô avec des informations mises à jour en temps réel, rendez-vous sur le site internet et sur la page Facebook de horse-ball.org.
Pour nous poser vos questions ou encore nous apporter vos suggestions auxquelles nous essaierons de répondre dans notre prochaine émission, vous pouvez nous écrire à l'adresse email suivante info@horse-ball.org.
On se retrouve pour le prochain numéro de l'analyse des experts le 4 mars, le mercredi précédant la prochaine étape de la compétition qui se dispute.
Merci à tous
et bonne étape à Saint-Lô.